Donc, on va faire un bref rappel, rapidement, peut-être pour voir un peu les éléments sur lesquels on peut, sur lesquels on se souvient, plus ou moins. Le chapitre 1, donc des versets 1 au verset 9, et puis à partir de là, on pourra donc continuer avec la suite aujourd'hui. Donc, de façon pêle-mêle, on peut prendre quelques éléments, quelques rappels, pour ceux qui se souviennent de tout ce dont on a pu discuter la dernière fois. Moi, j'ai noté quelques éléments aussi. Donc, je pourrais aussi les donner pour qu'on puisse les avoir ensemble. OK, donc il y a un seul évangile, donc il n'y avait pas un autre qui devrait être mis à la place de cet évangile-là. OK, donc on avait vu que des judaïsants voulant garder donc l'ancienne tradition vont mettre les bâtons dans les roues, non seulement de Paul, qui prêchait un évangile par la grâce, tandis qu'eux voulaient associer à la grâce les œuvres. Et on a aussi dit que donc associer à la grâce les œuvres venait donc détruire carrément le fondamental donc de notre foi, qui était la foi, du moins le salut par la grâce. Quelle attitude on devrait avoir vis-à-vis par exemple des personnes qui annonçaient un autre évangile? Ils étaient anathèmes. Donc ne pas leur dire salut, ils étaient anathèmes. Et puis il y avait une nuance quand même qu'on a apportée entre ceux qui annonçaient cet évangile-là et puis des personnes peut-être qui, par ignorance, pensent qu'elles sont dans la vérité, vers qui nous on va pour annoncer le vrai évangile. Donc, il y avait cette nuance-là aussi qu'il fallait faire. Amen. Donc, ne pas dire salut à celui qui cherche à nous convertir à un nouvel évangile. Et Paul déclare qu'il est anathème. Et puis, lorsque Paul parlait d'anathème, il s'incluait même. Si lui-même, il venait annoncer un évangile autre que celui qu'il avait annoncé, qu'il soit lui-même aussi anathème. Donc, cela venait démontrer effectivement que l'évangile, par la grâce qu'il annonçait, était le vrai évangile. Donc, moi, j'ai pu noter, parce qu'on avait vu effectivement que Paul défendait plus ou moins son autorité et puis son message. Donc, pour finir, on a conclu que Paul était aussi appelé apôtre. Bien qu'il n'avait pas vu Jésus, n'avait pas reçu un mandat, je dirais, verbal autant que les 12 disciples, mais il a fait une rencontre personnelle avec Jésus à Damas. Et à cette rencontre-là, il a pu rencontrer le Seigneur, il a reçu un message, un mandat spécial pour lequel il allait. Et une question est sortie, est-ce que Paul était le 13e disciple? Ça, on a dit qu'on la mettait dans la boîte à questions. Nous avions vu la semaine dernière que Paul défendait son apostolat parce qu'accusé d'usurper le titre d'apôtre, ce qui remettait en question le message du salut par la foi. Il montre que c'est Christ qui est au centre de notre foi, mettant ainsi l'accent sur le salut par grâce, ce qui contrastait avec les enseignements des faux docteurs, des faux enseignants qui disaient qu'il fallait être circoncis et pratiquer les œuvres de la loi pour être sauvé. Nous avons vu que c'est pour la liberté que Christ est mort et ressuscité. Face aux faux enseignants, il y avait des attitudes à avoir, ne pas les recevoir, ne pas participer aussi à leurs œuvres. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1 du verset 10 au verset 24 et le chapitre 2 du verset 1 au verset 10. Donc la première partie sera toujours, on rentre toujours dans la preuve de l'apostolat de Paul et puis la confirmation de son apostolat, la deuxième partie. Donc la première partie serait du chapitre 1, du verset 10 au verset 24. Galates chapitre 1, verset 10 au verset 24. Qui le trouve peut le lire.
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous déclare, frères, l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je n'ai pas ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes frères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils, que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem, à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, ni si ce n'est de Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.
Amen. Donc, c'est cette première partie que nous allons voir. Ici, lorsqu'on fait la lecture, nous voyons que Paul est en train de toujours défendre son apostolat, parce que non seulement il est attaqué d'usurper le titre d'apôtre, mais s'il est attaqué d'usurper le titre d'apôtre, c'est-à-dire fondamentalement le message qu'il annonce aussi est attaqué. Parce que nous avions vu la dernière fois qu'il y avait un nouvel évangile qui était en train d'être apporté. Et Paul est accusé d'usurpateur. Donc, par conséquent, non seulement l'individu lui-même pose problème, et si l'individu pose problème, certainement son message aussi pose problème. Certainement son message pose problème. Donc, nous allons voir du verset 1 au verset 12, d'abord dans le ministère de Paul, les preuves qu'il apporte pour montrer effectivement que l'évangile qu'il annonce est le vrai évangile et pour montrer qu'il est aussi serviteur de Dieu. Alors nous allons essayer dans ces versets-là de faire ressortir les éléments qui montrent effectivement, qui parlent de son apostolat à partir du verset 10. Il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc du verset 10 au verset 12, peut-être quels sont les éléments que Paul fait ressortir ici pour prouver effectivement que le ministère dans lequel il est engagé est un ministère qui ne vient pas de lui, mais qui vient de Dieu. Donc, pêle-mêle, on peut les faire ressortir, on peut les citer si on veut. C'est-à-dire, premièrement, il dit, en fait, il ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce que son passé, il met l'accent sur son passé. Paul était pharisien. Paul était, je dirais, fougueux pour respecter la tradition juive. Donc, c'était, je dis, un judaïsant actif. Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc, l'objectif de Paul ici n'est pas de plaire aux hommes, parce qu'il avait les avantages quand il persécutait l'Église. Et en persécutant l'Église, vu que la tradition juive l'engageait à cela par rapport au respect des lois qu'il voulait faire, il voulait ravager l'Église, il persécutait les chrétiens. Donc, tout ça sont des valeurs qui lui donnaient d'avoir peut-être la faveur des hommes. Mais au lieu de cela, il change de manteau, il change d'attitude. Et donc, il interpelle pour dire qu'au fait, il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais son but, c'est de plaire à Dieu. Amen. Et au verset 11 aussi, il insiste pour dire, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Donc ici, on voit que Paul met l'accent sur l'origine de son message. Le message qu'il apporte n'est pas de lui. C'est un message qui vient de Dieu. Il dit, n'est pas de l'homme. Donc, il n'y a pas une réflexion humaine, il n'y a pas une connotation humaine ou un mode de pensée humain qui pousse à ce qu'il ait un nouveau message. Mais le message qu'il reçoit vient de Dieu et c'est ce qu'il partage effectivement avec les Galates, c'est l'évangile qu'il a annoncé. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels Paul est en train d'insister pour montrer effectivement que, au fait, il est apôtre pas de par sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Au verset 12, il dit, il n'a pas reçu son message d'un homme. Il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Or, on sait dans la tradition juive, effectivement, que quand on prend l'exemple même du Seigneur Jésus, on nous dit à l'âge de 10 ans, il récitait les passages bibliques dans les synagogues. Donc, généralement, dans la tradition juive, c'est-à-dire il y a la mémorisation qui est importante, et puis il y a l'apprentissage aussi, il y a l'apprentissage qui est acquise à partir de personnes expérimentées ou ayant la connaissance de la loi. Mais Paul dit qu'il n'a pas appris ces choses-là. Il n'a pas reçu cela d'un homme. L'évangile qu'il annonce, il n'a pas reçu ça des hommes, mais il a reçu ça, il a reçu cela de Dieu. Donc, tous ces éléments pour montrer effectivement que non, son apostolat n'avait pas pour objectif de plaire aux hommes, n'avait pas pour objectif de chercher une gloire pour lui-même. Une gloire qui venait des hommes et tout ça, mais son objectif d'abord, c'est de plaire à Dieu. Son objectif, c'est d'annoncer ce que Dieu lui demande d'annoncer. Amen. Mais qui il était auparavant? On peut prendre Acte 26. Quelqu'un peut nous lire Acte 26, le verset 5, et puis Acte 23, verset 6.
Ils me connaissent depuis longtemps. S'ils veulent en témoigner, j'ai vécu en pharisien, selon la partie la plus rigide de notre religion.
Il a vécu en pharisien selon la partie rigide de leur religion. 23, verset 6. Donc, il montre ici le virage, comme on a dit, le virage de 360 degrés. C'est-à-dire, Paul avait une attitude qui était assez rigide. Et on a vu sur le chemin de Damas, avant que le Seigneur le saisisse, qu'est-ce que Paul était en train d'aller faire? On nous dit qu'il a pris des lettres et il allait pour persécuter l'Église. Et on nous dit qu'il ravageait l'Église. Quand on parle de ravager, effectivement, c'est une destruction pratiquement totale qu'on veut faire de l'Église. Et il le faisait de bon cœur. Comme on l'a dit, il voulait plaire à Dieu, mais en s'appuyant sur une tradition. Donc c'est en s'appuyant sur une tradition et puis allant détruire ce qu'il croyait faux que le vrai Dieu va le saisir. C'est-à-dire ça prenait la main de Dieu. Voilà, ça prenait la main de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai, la main de Dieu est dans toute conversion, dans tout changement de vie. C'est-à-dire, quel que soit notre passé, la main de Dieu est dans notre conversion. Maintenant, Dieu va agir de façon spécifique, de façon spécifique, nous connaissant mieux, dans la conversion de chacun. Et puis pour Paul, ça prenait une telle conversion. J'avais rencontré un prof de philosophie une fois, et puis, mais qui est devenu chrétien. Et puis il en parlait, il disait, moi ma conversion, ça prenait un miracle de Dieu parce que j'avais trop de philosophie en moi. Et donc, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient me parler, j'ai les moyens de démonter ce qu'il me dit avec ma philosophie. Mais j'avais été malade. C'est là que j'ai vu la main de Dieu et je suis devenu chrétien. Et il a dit ceci, il arrive des moments où, dans la conversion de certaines personnes, ça prend un miracle de Dieu. Et puis ici, dans le cas de Paul, ça prenait une action spéciale particulière de Dieu lui-même. La preuve en est que lorsque certains chrétiens ont appris que Paul était converti, mais est-ce que ce n'était pas une ruse, ce Paul-là? Parce qu'on a tellement entendu parler de lui. Est-ce que ce n'est pas une ruse même pour nous attraper et tout cela? Mais il fallait qu'il puisse être rassuré. Amen. Donc ça prenait la main de Dieu, effectivement, pour la conversion de Paul. Donc Paul est en train de démontrer cela. Si c'est pour plaire aux hommes, j'avais les moyens de plaire aux hommes. Hein? D'abord, je suis pharisien, et puis je suis hébreu, né d'hébreu, lui-même il le dit. Et puis, pharisien, selon, l'une des religions rigides de notre tradition. Donc tout ça là, c'est des signes de gloire. Et puis il dit ailleurs, plus avancé que les gens de son âge. Donc, ça montre effectivement qu'il pouvait avoir cette gloire que les hommes donnent. Mais au-delà de cette gloire, la main de Dieu l'a saisie. Et puis aujourd'hui, l'évangile qu'il prêche, c'est un évangile venant de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Et puis, dans tout ce qu'on a dit, ça montre effectivement aussi que Paul était préparé aussi à cela. C'est-à-dire à ce changement-là. Il était préparé sans s'en rendre compte parce qu'il connaissait. Il connaissait la loi, il connaissait Dieu à partir de la tradition des éléments qu'il a appris. Mais donc, il fallait juste un changement de cap pour qu'il aille vers la bonne direction ou la nouvelle direction que Dieu donnait pour son Église. Amen. Donc, le message de Paul vient de Jésus-Christ. Paul savait-il auparavant qui était Jésus? Paul savait auparavant qui était Jésus. Comment? Donc, il savait qui était Jésus, mais il n'y croyait pas. C'est comme nous, il est arrivé peut-être des moments de nos vies, mais on nous parle de Jésus, on sait qui est Jésus, mais on n'y croit pas. Mais arrivé un moment, ça prend un fouet. Et puis on dit, ah ouais, Seigneur, tu as raison, c'est toi le seul vrai Dieu. Donc, Paul aussi, il savait effectivement, parce qu'il avait entendu parler de Jésus, il entendait les témoignages des chrétiens, c'est pour ça qu'il fallait les... Il voulait à tout prix les éliminer. Voilà, donc il savait effectivement qui était Jésus, mais il n'y croyait pas. Des versets 13 au verset 24, nous allons voir les preuves dans la vie de Paul. Par ces éléments, c'était les preuves dans, par rapport à son ministère. Maintenant, les preuves dans sa vie, du verset 13 au verset 24. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par grâce, par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Amen. Ici, l'un des éléments qui m'a marqué lorsque je faisais cette lecture, c'est la dernière partie. C'est-à-dire, elle glorifiait Dieu à mon sujet. C'est-à-dire, bien que Paul persécutait l'Église et tout ça, mais quand l'Église a appris la conversion de Paul, c'était la joie. Cette église-là, et puis l'église a commencé à glorifier Dieu de ce que Dieu a accompli dans la ville de, dans la vie du moins de Paul. Et ici, Paul présente, en présentant effectivement son témoignage, comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire son passé, il parle de son présent maintenant, comment Dieu l'a appelé. On voit ici effectivement qu'il est en train d'attester, il atteste effectivement que le message qu'il apporte, c'est un message qui vient de Dieu. C'est-à-dire, sa vie personnelle est un témoignage. Sa vie personnelle est un témoignage. Et sa conversion, il montre que, effectivement, dès sa naissance, comme on l'a dit, dès sa naissance, dès le sein de sa mère, mais Dieu l'avait appelé. Dès le sein de sa mère, il dit Dieu l'a appelé dès le sein de sa mère. Mais ça prie que Dieu se révèle à lui. Ça prie que Dieu se révèle à lui avant qu'il ne commence par servir Dieu. Bien qu'engagé dans les traditions qu'il avait avant, bien qu'engagé dans le judaïsme, ouais. Fallait qu'il change de cap. Tout ça là pour attester, pour montrer effectivement que sa vie personnelle est un témoignage par rapport au message qu'il apporte. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit encore dans sa conversion, dans la conversion de Paul. C'est Dieu qui l'a mis à part. Il dit, quand il plut à Dieu de m'appeler, ça est dans toute ma fougue, dans tout mon excès de zèle judaïque, quand il a plu à Dieu de m'appeler, il m'a appelé et puis je le sais. Voilà. Donc, Paul ici, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement dans son mode de pensée. Il y a un renouvellement dans sa compréhension de Dieu. Et puis donc, c'est ce qu'il est en train de rappeler ici aux Galates. Il est en train de leur rappeler cela. Parce qu'on a vu dans les premiers versets, il était choqué que les Galates se détournaient si facilement de l'évangile qu'ils avaient reçu. Donc, il donne son exemple encore. Au fait, pour insister sur le fait que sa vie même devrait pouvoir les interpeller. Parce que lui qui bénéficiait de tous les avantages, pourrais-je dire, liés à la tradition juive, de façon miraculeuse, il a changé. Il a changé de cap, il a changé de position. Mais si c'est pour plaire aux hommes, pourquoi aurait-il changé de position? C'était cela l'objectif principal. Mais si j'ai changé de position, c'est parce que quelque chose de particulier aussi se passe ou s'est passé dans ma vie. Donc, on voit effectivement, selon ce qui a été dit, que Paul n'est pas allé chercher la connaissance auprès des disciples. C'est-à-dire, normalement, je dirais, peut-être dans les normes, peut-être on aurait dit, bon, ok, tu as réussi l'évangile, mais il y a des apôtres. Plus loin, on va voir ceux qui sont, on les appelait ceux qui sont plus considérés, on les appelait encore les colonnes. Donc, mais va vers eux. Mais Paul n'est pas allé vers eux pour s'assurer qu'est-ce que l'évangile que je vais prêcher est conforme à ce que les autres prêchent. Il n'a pas fait cette comparaison, mais il a reçu son évangile. Il a reçu l'évangile, il a reçu le message et il est parti. Et il insiste qu'il est allé plus loin quand il dit qu'il est allé voir Céphas. Il a passé juste 15 jours. Mais c'est après son premier voyage qu'il est allé les rencontrer, qu'il est allé le rencontrer. Mais ce n'était pas pour valider l'évangile qu'il prêchait, parce qu'il était déjà dans la vérité. Donc ça montre effectivement que Paul a reçu, le dépôt de Paul était un dépôt qui venait directement. Il était déjà bien préparé. Mais dans sa préparation, il aurait pu dire, mais avec toute la connaissance de la tradition qu'il avait, il aurait pu aussi se comporter comme les autres judaïsants. C'est vrai, Jésus sauve, mais en plus de cela, on peut faire des œuvres, parce qu'il était zélé pour les œuvres aussi, Paul. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait, parce que même sa conversion même est une grâce. Amen. Amen. La conversion de Paul même est une grâce. Donc sa conversion même l'interpelle pour montrer effectivement que c'est par la grâce de Dieu que moi, Paul, je peux être sauvé. Avec tout ce que j'ai fait, si on veut tenir compte de la tradition, si on veut tenir compte des œuvres, je ne pense même pas que je peux être sauvé, mais ça prenait vraiment la grâce de Dieu. Donc ça fait une différence. Ça fait une différence. Donc, des fois, on va nous dire, non, mais c'est-à-dire, pour être sauvé, faut qu'on mette nos bonnes actions là, nos mauvaises actions là. Mais depuis quand nos bonnes actions peuvent être au-dessus de nos mauvaises actions? Jamais de la vie, ça ne peut pas. C'est-à-dire, dès qu'on se lève, même pendant que tu es couché sur ton lit, c'est les mauvaises actions. Donc, ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, ça prend vraiment la grâce de Dieu pour qu'on puisse être sauvé.
On pense toujours à une balance, mais... et ça n'a rien à voir avec une balance, ça a à voir avec une chaîne. Si on est suspendu au bout d'une chaîne et qu'un maillon casse, on est foutu.
Donc Paul avait tout son passé, effectivement, ça avait cette matière-là, et cette fois que c'est vraiment par la grâce que l'homme pouvait être sauvé. Et puis, comme on l'a dit, donc le fait même qu'il ne soit pas allé voir les disciples montrait effectivement que ce qu'il prêchait, l'enseignement reçu déjà venait de... Les révélations que Paul reçoit, ou du moins l'enseignement que Paul reçoit, viennent de Dieu. Il les a reçus de Dieu. Donc, le dépôt était là. Voilà. Donc, pendant ce temps, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est l'annonce de l'Évangile. 3 ans plus tard, il revient à Damas. 3 ans plus tard, il revient à Damas. En revenant à Damas pour... disons, peut-être faire le point. On va voir qu'au niveau de la tradition juive, il va arriver un moment, au lieu que ce soit la parole de Dieu en tant que telle qui soit étudiée ou appliquée, ce serait juste des commentaires. Les gens vont s'appuyer plus sur les commentaires. C'est-à-dire, nous, on va se fonder, pour cette étude, on se fonde sur le commentaire de John MacArthur. Mais le commentaire de John MacArthur n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec? Donc, tous les commentaires qu'on peut lire ne constituent pas la parole de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu, c'est ce qu'on tient. Parce que moi, mon commentaire peut-être serait différent du commentaire de quelqu'un d'autre. Le commentaire de John MacArthur, peut-être dans certains points qu'il a énoncés, ce ne sont pas les commentaires que moi j'approuve peut-être. Vous comprenez? Mais ce qui nous rassemble, ce que nous approuvons, c'est la parole de Dieu. Donc, il va arriver un moment où, au niveau des rabbins juifs et tout cela, les gens vont plus s'appuyer sur peut-être les explications ou les commentaires même de ces rabbins, de ces chefs religieux-là, pour marcher. Et au fur et à mesure, la loi juive s'étoffe. Donc ce sont ces éléments-là. Donc c'est sur tout ça que Paul s'appuie pour dire que le message qu'il reçoit n'est pas un message qui vient des hommes, ni même pas de la réflexion humaine, mais c'est un message qui vient de Dieu. Et donc Dieu se révèle à lui et Dieu inspire par son esprit. Donc l'Esprit de Dieu qui enseigne, qui nous donne la connaissance à Paul pour pouvoir avancer dans le message qu'il a prêché. Amen. Donc la deuxième partie, chapitre 2, verset 1 au verset 10, où nous parlons maintenant de la confirmation de l'appel de Paul.
Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé aux plus considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Le type qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir, un petit point. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissait en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi, nous irions vers les païens, et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire.
Amen. Donc voici que Paul qui n'avait pas rencontré, je dirais, les apôtres avant de s'engager dans son ministère, après sa conversion et tout cela, 14 ans après, va les rencontrer. Mais il va les rencontrer suite à un problème. Voilà. Il va les rencontrer parce que, au niveau de l'Église, il y a deux messages. Dans le message, toujours le message du salut par la grâce, et puis le message du salut par la grâce, plus par les œuvres. Donc, le message du salut par la grâce plus par les œuvres. Donc, les deux qui sont associés, et puis Paul qui défend juste le message du salut par la grâce. Et Paul qui est mis à l'écart parce que considéré comme faux apôtre, considéré que le message qu'il annonce n'est pas le bon message et que toute personne se convertissant à Christ devrait donc être circoncis. Et c'est ce qui va amener Paul à aller rencontrer. Donc, si vous voulez aller à une convocation, je peux en griffe à une convocation auprès de ceux qui avaient, ceux qui avaient le dépôt de la parole, le dépôt de l'enseignement. Donc, aller vers les apôtres qu'on a décrits les plus considérés, qu'on a décrits comme les colonnes, parce que c'était eux qui étaient respectés, supposaient qu'ils avaient toute la vérité. Mais, donc, Paul se déplace, il ne se déplace pas seul, il va avec Tite, et on nous dit que Tite est un grec. Donc, un pur païen, n'est-ce pas? Je pourrais dire un païen de Puylaine. Donc, il va avec Tite, mais Tite a reçu le Seigneur. Tite est païen. Tite n'est pas circoncis. Il se déplace avec Tite et il va rencontrer les apôtres et Barnabas, tout à fait, pour présenter la situation qui se passe, parce qu'il y a une accusation, certainement. Mais le message que Paul prêche n'est pas le bon message. Ce n'est pas le message que le Seigneur nous a demandé de prêcher. Paul prêche que les païens ne doivent pas suivre la tradition. Et donc, c'est ce qu'il va exposer auprès des apôtres. Et donc, auprès des apôtres, il se trouve que ils n'ont rien à dire par rapport au message de Paul. Au message que Paul prêche, les apôtres n'ont rien à dire. Mais pourquoi était-il utile que Paul puisse se déplacer avec Tite, puisse partir avec Tite à cette rencontre? Que Paul parte avec Tite rencontrer les apôtres? Donc ici, on voit en effet que Paul se déplace avec Tite pour montrer effectivement que la grâce est venue pour tous. Et pendant que je faisais, je pensais aussi à Pierre. Pierre et Corneille. Je pensais un peu à Pierre et Corneille. Je me suis dit, mais est-ce que le Seigneur n'était pas en train de préparer même les apôtres, je veux dire, à tout cet épisode que l'Église allait vivre? Pierre qui dit, mais est-ce qu'on peut recevoir le baptême à celui qui a reçu l'Esprit dans la maison de Corneille, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on lit cette partie, Pierre est parti, il a rencontré Corneille et puis sa famille et tout cela. Mais quand il est revenu, les autres lui faisaient le reproche d'avoir mangé, même chez un païen. Mais il fallait qu'il expose là-dessus. Et à la fin, il dit, mais est-ce qu'on peut refuser, on peut refuser le baptême à quelqu'un qui a reçu l'Esprit? C'est-à-dire à quelqu'un à qui Dieu a dit, je t'appelle. Mais Corneille était aussi un païen. Et puis je me dis, mais certainement, Dieu était en train de préparer même le terrain même pour ces événements même qu'allait vivre peut-être Paul. Et donc l'attitude de Paul en allant avec Tite, effectivement, c'était la preuve vivante et irréfutable que la circoncision et l'observation des prescriptions de la loi ne sont pas nécessaires au salut. Et sa présence démontre aussi que les judaïsants qui prêchaient un faux évangile et devaient être rejetés par l'Église simplement. Parce que c'était un évangile qui venait s'opposer à l'évangile que non seulement les apôtres prêchaient, mais à ce que aussi Paul prêchait. Donc le rôle, on a vu la dernière fois que lorsque ces judaïsants arrivaient, ils troublaient l'Église. Donc lorsqu'il y a un autre évangile qui vient qui est contraire à celui qu'on a reçu, l'évangile de la grâce, c'est un évangile qui va venir et puis clairement qui va troubler l'Église, qui va créer du désordre dans l'Église. On voit dans la démarche de Paul l'approbation effectivement des apôtres, parce que non seulement ils ne vont rien trouver à redire, donc en ne trouvant rien à redire, ils mettent en faux ceux qui annonçaient un autre évangile, ceux qui disaient qu'il fallait qu'on soit circoncis pour bénéficier du salut. Donc ils donnaient la preuve que ce que Paul prêchait était juste, était ce qui était vrai, donc le salut par la grâce, par la foi seulement Jésus-Christ, et non par la foi plus les œuvres, mais juste le salut par la foi en Jésus-Christ. Des versets 9 à 10, Paul nous parle de la main d'association. Qu'est-ce que cela venait indiquer donc? Donc les disciples, ils donnent la main d'association à Paul. C'est-à-dire celui qui est rejeté peut-être par les judaïsants, celui pour qui le message était critiqué, et puis même celui pour qui l'appel était critiqué aussi. Mais les disciples, les apôtres du moins, lui donnent leur main d'association pour montrer effectivement que le message de Paul était vrai, pour montrer effectivement que Paul était un apôtre, pour montrer effectivement que le message est envoyé aux païens et ils n'ont pas besoin de suivre la tradition juive. Ils n'ont pas besoin de suivre la tradition juive, de marcher selon certains principes ou préceptes du judaïsme pour être sauvés. Mais simplement avec la foi en Jésus-Christ, c'était suffisant ou c'est suffisant pour être sauvés. Amen. Et on nous parle de la recommandation qui est faite à Paul et à Barnabas. C'est de prendre soin, de soutenir les pauvres. Est-ce que cela pourrait rentrer aussi dans le cadre de la doctrine aussi? Est-ce que cela venait s'ajouter à la foi? Voilà, donc parce que ici, lorsqu'on nous dit prenez soin des pauvres, n'oublie pas de prendre soin, de vous souvenir des pauvres, ça c'est l'œuvre, ça c'est une œuvre qu'on fait, n'est-ce pas? Voilà, donc il leur dit, les disciples recommandent à Paul de prendre soin des pauvres, mais cela n'ajoute rien à la foi. N'est-ce pas? Cela n'ajoute rien à la foi, cela ne vient pas pour les aider à être sauvés, ne vient pas pour les aider à avoir le salut. Mais juste, c'est une pratique, c'est une responsabilité qu'ils avaient aussi de s'occuper des pauvres avec qui vivaient avec eux aussi. Voilà. Donc cela n'avait pas lieu de dire que ça devenait une doctrine, ça devenait une règle associée forcément à la foi. Et comme on l'a dit la dernière fois, c'est notre foi qui nous pousse à faire de bonnes œuvres. C'est parce que nous avons, Christ nous a sauvés que nous sommes libres de faire de bonnes œuvres. Amen. Pas parce que nous faisons de bonnes œuvres pour pouvoir être sauvés. Cette recommandation, donc, les disciples la donnent quand même à Paul. Et Paul nous dit que c'est la seule recommandation qui lui a été faite quand il allait rencontrer les apôtres, donc les tenants ou les colonnes de l'Église, c'est la seule recommandation qui lui a été faite, de prendre soin des pauvres. Amen. Et Dieu, Paul avait écrit lui-même, donc suite à une révélation qu'il montre, peut-être même qu'il n'était pas assez motivé à partir. Je lui ai dit, mais il fallait que ça prenne quand même, qu'il ait la conviction, que Dieu se révèle encore à lui pour aller défendre cet apostolat, parce que plus haut, il dit, bien que les apôtres, leur passé lui importe peu, mais ce qui importe là, c'est que la parole de Dieu puisse annoncer dans la vérité. Pour Paul, c'est ça. C'est que la parole de Dieu puisse être annoncée dans la vérité. Et puis, vu qu'il y avait trop de polémiques autour, non seulement de lui-même et de son message, pour assurer peut-être les uns et les autres, ça prenait effectivement qu'il aille pour avoir la confirmation des apôtres par rapport au message. Voilà, c'est peut-être juste ça. Sinon, il ne doutait pas que ce qu'il annonçait était la parole de Dieu, elle était vraie. Il ne doutait même pas de son apostolat, c'est-à-dire de son appel. Mais il le faisait aussi pour quand même rassurer ceux à qui il apportait cet évangile-là. Parce qu'il commençait par être détourné par de faux frères qui, de façon subtile, s'introduisaient dans l'Église. Est-ce que l'attitude de Paul dans cette démarche était bonne? Ou il aurait pu ne pas y aller? C'est-à-dire, Paul aurait pu rester sur place pour dire, mais ils annoncent l'Évangile parmi les circoncis. Moi, j'ai eu mon mandat parmi les incirconcis, donc je reste et puis je continue mon ministère. Je continue, mais effectivement, il y avait cet esprit d'unité là. Parce que le Seigneur unit. Et puis Paul, comme je l'ai dit tantôt, n'avait aucune crainte, n'avait aucune hésitation à le faire, à aller les rencontrer, même à exposer ce qu'il annonce. Parce que quand c'est la vérité, on dit elle est claire comme l'eau de roche. N'est-ce pas? Donc c'est cette vérité qu'il a annoncée. Et puis certainement qu'il leur a dit, mais voici ce que nous annonçons. Et puis voici un témoin oculaire. Tite qui est avec moi, qui a accepté le Seigneur. Tite, as-tu accepté le Seigneur Jésus? Il dit, oui, je l'ai accepté par grâce et je suis sauvé. Donc, il voit ça et puis il dit, c'est vrai, Dieu est en train de faire son œuvre. Et puis, l'Évangile avance. Donc, entre parenthèses, ce qui était plus ou moins différent, on parle de Timothée, différent à qui on a demandé la circoncision, parce que lui, il était juif. OK? Il était juif et puis pour faciliter l'Évangile aussi parmi ce peuple-là. Donc, je veux dire que Dieu va agir de diverses sortes, de diverses manières, mais son but est toujours le même. Il va utiliser les uns et les autres, mais son objectif, il atteint toujours. Hein? Et il va nous amener à travailler dans l'unité. Et quand on sait qu'un esprit ne vient pas de Dieu, quand on sait qu'un évangile ou un message ne vient pas de Dieu, il y aura toujours des troubles qui vont commencer par se mettre. Amen. Et puis, c'est ce que Paul, par je dirais, la sagesse que Dieu lui a donnée, va écarter ou autour des Galates, tous ces faux enseignants, ces faux enseignements-là qui venaient pour perdre l'Église de Dieu. Ben aujourd'hui, est-ce que nous sommes confrontés aussi à ce genre d'enseignement? Je pourrais dire abondamment. Hein? Voilà, abondamment. Et puis, la dernière fois, on a parlé du discernement qui était assez important. Parce que lorsqu'on lit le passage, on dit de faux frères qui vont s'introduire de façon furtive, donc de façon subtile. C'est-à-dire présenter un évangile. Donc, quand tu les écoutes, effectivement, tu es tellement content de les entendre parler parce que tu penses que c'est l'évangile, mais derrière ça se cache un mensonge. Derrière ça se cache, je dirais, une œuvre diabolique. Vous voyez? Donc, ça prend effectivement qu'on ait le discernement. Et puis, le discernement vient de la parole de Dieu. Donc, c'est en nous attachant à la parole de Dieu, effectivement, qu'on va discerner si ce qu'on nous dit est vrai ou ce qu'on nous dit, c'est faux. Amen. Donc, c'est le travail de Dieu. Et il se déplaçait, effectivement, vers les disciples. Il aurait pu rester, effectivement, pour dire non, j'annonce l'évangile et puis c'est suffisant pour moi. Mais ça prenait, effectivement, qu'il s'associe aux disciples. Et puis, comme on l'a lu, c'est-à-dire pour vérifier, pour s'assurer qu'ils ne couraient peut-être pas aussi en vain, qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Mais à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Il avait la conviction et puis les apôtres n'ont pas fait de reproches par rapport à cela. Amen. Okay, donc que le nom du Seigneur soit béni.